Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du SA15 Mag Attitude. Une émission particulière aujourd'hui car il n'y a pas eu de match pour l'équipe premium du SA15, mais il n'y en aura pas eu non plus la semaine prochaine, semaine qui arrive. Elle est encore plus spéciale cette émission car aujourd'hui il n'y a pas Fred qui va animer cette émission là. Salut Christian, comment tu vas?
Salut Loïc, tout va bien, merci, et toi?
Ça va, tiens, tranquillement, avec un week-end mitigé, on va dire, avec beau temps et mauvais temps, mais bon, après, on va dire de bonnes nouvelles sur le rugby national, avec la victoire de l'équipe de France dans ce crunch, où c'était un match palpitant. Allez, mais nous, on va plutôt parler du SA15 aujourd'hui, et pour ça, on va en parler, on va d'abord faire le sommaire.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Au sommaire, nous allons parler en première partie de ces deux premiers tiers du championnat. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Qu'est-ce qu'il y a eu de moins bon? Et est-ce qu'on a vu un grand changement ou non avec ce nouveau staff? En deuxième partie, que devons-nous attendre pour cette fin de championnat pour le SA15? Il reste encore 7 journées à faire. Que va-t-il se passer dans ces 7 prochaines journées pour le SA15, mais aussi pour nos adversaires, nos concurrents de cette deuxième partie de tableau? Et pour terminer de cette émission, on parlera des jeunes, car les Espoirs et les Godarman étaient sur le terrain ce week-end. Allez, c'est parti pour le début du SA15 Mag Attitude.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Mag Attitude.
Christian, comme je disais dans le sommaire, on va parler en première partie de ces deux premiers tiers du championnat où c'était, allez, on va dire, un peu compliqué pour le SA15. Au début, on attendait peut-être un peu mieux. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais tu vois, je développais un peu ces deux premiers tiers en plusieurs parties. On va dire qu'il y a une partie avec la Coupe du Monde. J'ai bien envie qu'on commence par là, si ça te va, ou cette partie en fait de la Coupe du Monde concernait 8 matchs, et sur les 8 matchs, ben ça a été compliqué parce que il n'y a eu qu'une seule victoire et un match nul qui était en début de saison, mais après c'était des défaites, des courtes défaites, mais des défaites qui comptent maintenant.
Ouais, effectivement, période compliquée, oui et non, mais en tout cas particulière dans le sens où déjà le SA15 avait deux membres à la Coupe du Monde, deux joueurs, hein, quand on fait parler quand même du SA15 à la télévision, ce qui n'est pas rien, hein. C'est une chose d'être fan de Pro D2 et de regarder les matchs de Pro D2, mais c'en est neutre finalement d'être spectateur de la Coupe du Monde, hein, un grand public non initié. Donc voilà, certaines personnes qui regardaient les matchs du Chili et du Portugal ont pu placer Angoulême sur une carte du rugby, donc ça c'est déjà pour moi un premier point positif. Après, c'est vrai que comptablement, ces 8 premiers matchs sont déficients en termes de points, puisqu'il n'y a qu'une seule victoire. Il y a quand même des bons comportements à l'extérieur, hein, des défaites avec des bonus défensifs, et des matchs qui auraient pu tourner en faveur du SA15, hein, que ce soit une défaite de 1 point à Béziers, lorsqu'on voit le classement de Béziers maintenant, on relativise positivement cette défaite. Une défaite de 5 points à Biarritz, hein, qui rapportait 1 point. Une défaite aussi à Provence Rugby, 2-3 points. Sachant que Provence Rugby est aussi dans la course à la montée. Donc ça restait une performance honorable. Je dirais que ce qui a pêché, c'est les performances à domicile, finalement, pour bonifier ces bonus défensifs. Alors certes, il y a eu la victoire contre Aurillac en entame de championnat. Mais c'est vrai que derrière, il y a eu des déceptions. Le nul contre Dax, même si on s'aperçoit que Dax est une belle équipe, et puis surtout les deux défaites, hein, contre Montauban et Mont-de-Marsan à domicile. C'est vrai que quand on prend alors moi j'aime bien prendre le bilan chiffré pur, mais j'aime bien aussi le remettre dans le contexte d'un classement actuel qui a forcément évolué après 23 journées, et on se rend compte que la défaite contre Mont-de-Marsan à domicile, elle fait très mal, puisque maintenant Mont-de-Marsan est un candidat au maintien, donc cette défaite là fait mal. Même s'il y a eu un bonus défensif, c'est vrai que perdre chez toi contre un concurrent direct, c'est pas forcément très positif.
Ouais, il y a même aussi le match nul, hein, face à Dax qui fait très mal aussi, hein, comptablement, ouais. Parce que ça aurait pu te permettre à souffler maintenant, mais est-ce que quand tu vois ça quand même, parce que comme tu dis, hein, c'est des scores honorables, hein, face à une équipe à Béziers, à Provence, où t'arrives à récupérer des points de bonus et qui sont second et troisième du classement général, est-ce que en fait on peut avoir des regrets quand on voit ces scores maintenant, ou est-ce que les regrets, on verra ça à la fin de la saison quand tout sera terminé?
Ouais, forcément, on fait les comptes en fin de saison, hein, donc les regrets apparaîtront en fin de saison. S'il manque 2-3 points pour le SA15, bon, on pourra se dire, bah tiens, le SA15 a perdu les points là, là et là. Des regrets, forcément, on voit qu'ils sont capables de rivaliser. Puis on voit aussi que plus tard, ils sont allés gagner à Brive. C'est quand même une très belle performance. Et puis battre Nevers aussi, enfin, contre les équipes du tableau, finalement, c'est un bilan qui est relativement honorable, mais des regrets, il y en a forcément. Et puis il a fallu aussi que Mayonnaise prenne avec le staff l'arrivée d'Alexandre Ruiz, qui a mine de rien endossé pas mal de défaites sur lui, qui a protégé son groupe. Comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a eu pas mal de bonus défensifs, mais c'est des bonus défensifs qui n'ont jamais été bonifiés. Et c'est vrai que un point plus un point, on avance un peu au ralenti. Un point plus zéro, on avance également au ralenti. Alors que un point plus quatre, par exemple, on aurait pu avancer plus vite.
Beaucoup plus vite. Voilà. Ouais, tout à fait, beaucoup plus vite. Et ben, ce beaucoup plus vite, en fait, il est arrivé peut-être plus en cette deuxième partie, en ce deuxième gros bloc, j'ai envie de dire, c'est le bloc que je vais appeler juste après la Coupe du Monde. C'est-à-dire que de début novembre, ben, jusqu'à Noël, il y a eu quand même quelques matchs dans cette période-là. Six matchs, donc, dans cette période-là, et quatre victoires, hein, sur les six matchs. Donc, c'est quand même assez beau. C'est des belles victoires, comme tu disais, mais à Brive, une victoire, mais aussi une victoire à domicile face à Nevers. Nevers qui est quand même une équipe assez costaud, assez joueuse, hein. C'est l'une des meilleures attaques de notre championnat. Donc, c'était quand même de bonnes nouvelles. Il y a quand même eu une défaite à domicile face à Grenoble. C'était peut-être un peu le regret parce que, Grenoble, pour moi, c'est une équipe un peu faible, on va dire, à l'extérieur, même s'ils ont réussi à faire un coup chez nous et un coup à Vannes aussi. Et allez, cette défaite à Valence-Roman, 6-0, face à un temps magnifique, ouais, qui est de la pluie à longueur de temps, c'était quand même un beau bloc, non?
Ouais, c'est un beau bloc, notamment les deux victoires consécutives à domicile au mois de décembre, c'était vraiment hyper important de les faire, parce que à ce moment-là, le SA15 était ric-rac 15e, donc c'était important vraiment de partir en trêve avec ces deux victoires. Ils ont réussi à le faire, ce qui a permis au SA15 de passer les fêtes hors de la 16e et de la 15e place, qui est, bah, pour moi vraiment important dans les têtes, hein, moins on est dans ces places-là, le plus important c'est de ne pas y être le soir de la première journée, mais moins on y est dans la saison, mieux c'est, on travaille avec un climat plus serein. Autant sur les premiers matchs, le parcours à domicile était compliqué avec deux défaites et un match nul pour une seule victoire. On a longtemps eu un SA15 qui était déficitaire sur des matchs à domicile. Et lorsqu'on voit le ratio de points que prennent toutes les équipes à domicile, bah, c'est vraiment là vraiment que le SA15 pêchait et perdait des points par rapport à la concurrence. Et ils l'ont réussi à faire contre Nevers. Ils ont gagné à Brive, ce qui était un exploit monumental. Parce que c'est vrai qu'à l'échelle d'Angoulême, d'aller gagner à Brive, c'est quand même...
Première fois qu'ils allaient gagner à Brive. Hein.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'ils s'étaient rencontrés quelques fois en Pro D2 lorsque Brive faisait un peu l'ascenseur. Mais c'est vrai que depuis... Bah, Brive, c'était quand même une équipe qui était confirmée en top 14, qui était en top 14 depuis plusieurs saisons. Bah, voilà, d'aller gagner un peu là-bas, c'était David qui l'emporte face à Goliath. Donc, ils ont fait respecter l'histoire. Donc oui, effectivement, des victoires importantes. Et puis le retour de Martins, qui a directement marqué, il me semble, quelques essais importants. Le retour d'Ayarza, qui a permis d'apporter un peu plus de rotation sur les lignes arrières. On fait du bien. Et puis c'est des joueurs qui revenaient en plus de la Coupe du Monde, qui avaient... Le Portugal avait surperformé en Coupe du Monde. Le Chili avait montré vraiment des choses intéressantes. Et c'est des joueurs qui, je pense, ont amené un petit souffle nouveau, qui ont amené un peu leur enthousiasme de la Coupe du Monde, d'avoir finalement vécu ces deux aventures historiques pour leur pays. Et je pense que ça a fait du bien au SA15. Et puis surtout, les violets ont pris conscience qu'il fallait gagner à domicile. Et hormis le faux pas contre Grenoble, derrière, ça a été un sans faute.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que par le staff ou par les joueurs, pendant ce laps de repos qui était fin octobre pour reprendre début novembre, est-ce qu'il y a eu une remise en question tout simplement du staff ou des joueurs, ou même les deux, parce que ça n'avait pas gagné depuis début septembre, donc ça se posait des questions, non?
Bah oui, puis en plus il me semble que ça coïncide avec la... Tu vas peut-être me confirmer, mais il me semble que ça coïncide avec l'arrivée de Laurent Cardona aussi.
Bah ouais, Laurent Cardona qui arrive
renforcer le staff angoumoisin après sa pige de la saison dernière.
Ouais, il arrive mi-octobre, Laurent Cardona, ouais.
Ouais, tout à fait. Donc effectivement, je pense que c'est un staff et un groupe qui prend conscience qu'il faut améliorer les performances à domicile, sinon ça va être compliqué. À l'image de Rouen, hein, qui a mis vraiment longtemps à gagner ses premières rencontres. C'est un peu l'Union Charentaise qui reprend forme après la saison dernière, où Laurent Cardona est venu filer un coup de main parce que le SA15 était vraiment trop sanctionné. Et on voit désormais que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il y a des matchs où ça se termine à zéro pénalité marquée par l'adversaire. Alors je dis pas qu'il y a pas de faute, mais en tout cas c'est des fautes que où soit les adversaires vont en pénal touche et n'arrivent pas à marquer derrière, soit ils ratent les poteaux tout simplement. Je pense qu'il y a une petite prise de conscience et puis c'est aussi là qu'on voit la force mentale d'un groupe se relever après une période compliquée. Ben, toutes les équipes ne sont pas capables de le faire et le SA15 y est parvenu.
Ouais, tout à fait. Ils y sont parvenus. Et ben, pour cette année, après 2024, hein, ce troisième bloc de ce deuxième tiers de championnat que j'appellerai le, c'est l'année 2024. Et ben, cette année 2024, au final, on m'a, ben, du moins moi, toi aussi un petit peu, mais surtout moi, on m'a entendu passer des petits coups de gueule sur cette équipe du SA15 et notamment à l'extérieur où ça prenait de sacré rappelé, on va dire, dans ce bloc 2024 là. Mais quand on relativise, eh ben, il y a eu 9 matchs. Sur les 9 matchs, il y avait 4 à domicile, ben, 4 victoires à domicile. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de 2024.
C'est vrai que finalement, on a changé un peu de standard
stratégie,
par rapport à...
on va dire, et tout ça, peut-être, non? Est-ce qu'on mise pas plus sur les matchs à domicile que les matchs à l'extérieur?
Tout à fait. D'autant plus qu'il y avait des réceptions hyper importantes hein, sur ces 9 matchs. Quand même, tu recevais Biarritz, tu recevais Valence Romans. C'était donc des matchs qui étaient vraiment importants à gagner. C'est ce qu'ils ont fait. Et effectivement, ils sont passés à côté de plusieurs déplacements. Le déplacement à Dax, le déplacement à Mont-de-Marsan. Hein, quand tu es mené de plus de 30 points à la mi-temps, ça fait mauvais genre entre guillemets. Mais derrière, voilà, je pense qu'ils ont su capitaliser sur les rencontres à domicile. Je crois d'ailleurs qu'il y a un sans faute à domicile hein, sur 2024 pour l'instant, si je me trompe pas.
Il y a même un sans faute depuis Grenoble. Grenoble, il y a un sans faute à domicile.
Donc on est sur 6 victoires de suite à domicile. Donc voilà. Hein, bah, après, s'ils gagnent un match sur deux jusqu'à la fin de saison, ça devrait pouvoir le faire. Donc on va dire des prestations à l'extérieur qui sont plus compliquées. Est-ce que le staff a fait un peu la passe? Est-ce que c'est les joueurs qui mentalement, même si forcément ce sera jamais dit devant les médias, qu'on lâche des matchs, mais est-ce que les joueurs finalement, voyant les scores rapidement enflés, se sont un peu dit bon bah de toute façon là il y a 20 points de retard à la 20e minute, ça va être très compliqué derrière. Même si comme il y a eu des petites remontadas, hein, je repense en début de saison à ce match à Nevers où le SA15 a rapidement été mené, ils ont presque recollé pour arracher une victoire. Mais effectivement, voilà, après c'est deux écoles. Hein. Est-ce qu'on est performant à l'extérieur, mais peut-être moins à domicile, ou est-ce qu'on est hyper performant à domicile et moins à l'extérieur? Bah, comptablement, l'année 2024 donne plus raison à cette deuxième tendance. Tant qu'on y est dans les bilans, d'ailleurs, Loïc, je vais te lancer sur une petite statistique là que j'ai vue avant avant l'émission. Le SA15 est quand même la seule équipe à ne pas avoir gagné de bonus offensif cette saison. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Ouais. Ben, ça m'inspire moi qu'il y a un problème sur la ligne des attaques, hein, tout simplement, parce que bon, le SA15 a quand même gagné pas mal de matchs à domicile. C'est quand même une très bonne équipe à domicile. Mais voilà, il y a quand même eu 8 victoires à domicile et un match nul, donc c'est bien. Mais c'est vrai que niveau attaque, c'est pas trop ça. Alors, t'as quand même marqué 33 points face à Provence il y a pas longtemps. Oui. Et après, tu as dépassé une autre fois les 30 points, c'était en début de saison face à Aurillac, où tu devais gagner avec un point de bonus, mais Aurillac a marqué un essai à la fin. T'as perdu le fameux bonus offensif. Donc c'est ça qui est dommage. Après, ben, face à Valence, même si tu marques 18 points, t'es allé l'avoir, ce bonus offensif, et tu le perds en fin de match. Donc je pense que c'est quand même, oui, assez dommage de pas prendre de bonus comme ça. Donc oui, il y a peut-être des problèmes en attaque. On se rappelle aussi qu'en début de saison, il y avait des problèmes en défense, et notamment sur la discipline. Je pense plus que le staff s'est plus entraîné, s'est plus rapproché pour travailler la discipline. C'est pour ça que Laurent Cardona est arrivé, et plus pour travailler cette défense, parce que la défense, elle était très très compliquée avant, que ça soit les avant ou les arrières. Les avant maintenant, ça gère bien. Les arrières, des fois, ça a quand même quelques trous, hein. Faut pas se le cacher là-dessus. Heureusement qu'on a pris quand même quelques points de bonus défensifs du moins dans ce début de saison, parce que tu vois là, je vais
d'ailleurs, je te coupe simplement, mais pour par rapport à la défense, tu parlais de la défense, mais sur les 8 derniers, Angoulême est la deuxième meilleure défense.
Ah oui, sur les 8 derniers.
Ouais, sur les 8 derniers, Angoulême est la meilleure et la deuxième meilleure défense. Il y a que Valence Romans qui encaisse moins de points que qu'Angoulême. Donc
donc ça veut dire qu'on est dixième. Donc dixième défense au classement, donc c'est dixième en prenant 50 points à Mont-de-Marsan il y a peu de temps. Donc,
et 25 à Dax, effectivement.
Ouais, voilà, sinon tu étais quand même une bonne défense parce que tu as su revenir sur cette bonne défense. Tu as su retravailler là-dessus parce que c'est vrai que c'était pas terrible à un moment donné au début de saison. Tu as su remonter tout ça. Donc ça, c'est le top là-dessus. Mais moi, je vais revenir juste sur ton point où tu disais que voilà, ça... Il y avait deux stratégies différentes par rapport au staff et tout ça avant. Moi, je vais dire une chose, c'est qu'en fait, au début de saison, je pense qu'on a voulu jouer tous les matchs à fond parce que on ne savait pas trop où on allait, même s'ils disaient qu'ils jouaient le maintien et tout ça et pas plus. C'est vrai qu'il y a des supporters qui espéraient un peu plus et c'est vrai que les joueurs et même le staff a dû se dire, ben, on joue tous les matchs à fond et on verra qu'est-ce qu'on joue un peu plus tard. Et je pense que pour cette année 2024, ben maintenant les matchs ils sont un peu plus ciblés parce que il faut pas s'épuiser dans cette course au maintien et faut savoir quel match il faut gagner. Bon, même si on a envie que tous les matchs soient gagnés, je suis d'accord, on est là pour jouer, on est là pour gagner. Mais il y a plus de matchs, je pense, qui sont visés à ce moment-là que au début de saison. Donc c'est-à-dire que on va en parler juste après la publicité, mais je pense que pour le prochain bloc, ça sera les matchs à domicile qui seront prioritaires. Juste avant de faire une petite pause, Christian, qu'est-ce que tu penses de ce staff cette saison par rapport au staff de l'année dernière? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus pour toi?
Bah, c'est vrai que le staff a évolué avec l'arrivée d'Alexandre Ruiz. On a toujours Tanguy Cabrin finalement qui fait maintenant figure d'ancien dans le staff d'Angoulême. Et puis il y a toujours la petite touche historique avec Guillaume Laforgue. Je pars du principe que finalement toutes les équipes ne se relèvent pas d'un mode de saison compliqué. Angoulême l'a fait. Et ce que je retiens surtout, c'est les déclarations d'Alexandre Ruiz en conférence de presse qui vraiment a beaucoup protégé son groupe quand les résultats étaient plus compliqués. Il a vraiment assumé les défaites. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que ces joueurs n'ont pas sombré dans un état d'esprit négatif. Il y a la bonne pression dans le sport, mais il y a aussi la mauvaise pression. Et c'est vrai que je pense que Alex Ruiz, il a beaucoup déchargé ses joueurs de la pression. Et finalement, lorsqu'on voit le bilan comptable depuis, ça lui donne raison. Par rapport au ciblage de match, je voulais juste revenir là-dessus. Je pense qu'il cible aussi les matchs parce qu'il y a eu beaucoup de blessures ces derniers mois. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures sur les postes de deuxième et de troisième ligne. Et forcément, lorsqu'on a peu de joueurs valides sur ces postes-là, on cible forcément les matchs parce que c'est dur de tirer sur les mêmes joueurs. Mais pour l'instant, moi, pour le bilan est positif. Hein. Pour le staff, l'objectif c'était le maintien. L'objectif est toujours en cours d'acquisition. Donc bilan positif, même si forcément, avec seulement 3 points d'avance sur Montauban, on va vibrer jusqu'au bout sur cette fin de saison. Mais pour l'instant, le bilan est positif.
Bilan positif pour ces deux premiers tiers du championnat. On va parler du dernier tiers juste après la publicité.
Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
De retour ici sur Attitude FM pour le magazine Mag Attitude. SA15, pardon, Mag Attitude avec mon acolyte Christian. Christian, on a parlé des deux premiers tiers du championnat pendant un bon bout de temps, hein, quand même. Ça a quand même pris pas mal de temps. On avait quand même quelques trucs à dire. On va plus parler maintenant du dernier. Allez, on va pas appeler ça du dernier bloc parce qu'il y a quand même deux blocs encore, mais on va dire du dernier tiers du championnat où il nous reste 7 matchs à jouer. Donc ça va aller très très vite, hein, ces 7 matchs. Sur les 7 matchs, on en a que 3 à domicile. Donc ça va être tendu. Donc objectif pour se maintenir, c'est au moins ces 3 victoires là.
Ouais, c'est 3 matchs à domicile, en plus 3 matchs face à des équipes de tableau, hein, parce que ouais, le SA15 va recevoir Vannes, va recevoir Béziers, qui sont actuellement premier et deuxième, et puis ils vont recevoir Brive, qui est sixième, et je pense que Brive aura une revanche à prendre, hein, parce que de perdre à domicile contre Angoulême, ça le fait pas trop, entre guillemets. Donc ça va être des matchs compliqués. Il faudra ressortir le même type de prestation que ça a été le cas contre Provence Rugby, par exemple, où il y avait eu une belle victoire. Moins de matchs à domicile face à des gros adversaires. Pour moi, il faudra aller faire au moins un coup ou deux à l'extérieur sur cette fin de saison pour valider le maintien. Il y a forcément ce match de Rouen, l'avant-dernière journée, le 10 mai. Est-ce que Rouen sera déjà sûr d'être 16e à ce moment-là? C'est un des points d'interrogation. Si oui, est-ce qu'ils vont vouloir lâcher le match, entre guillemets, étant relégués? Mais bon, ça va être aussi leur dernier match à domicile. Donc, ils voudront quitter cette Pro D2 la tête haute. Mais bon, il y a peut-être ce match-là qu'on peut cibler. Et après, sur Grenoble, Agen, Nevers, il faudra pour moi faire un coup sur ces 3 matchs. parce que je pense pas que le SA15 fera un parcours parfait à domicile.
Bah, le coup à faire sera peut-être à Grenoble, moi je pense, d'entrée de jeu peut-être, avec pas mal de repos, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire le job, parce qu'après ça va être compliqué, parce que face à une équipe d'Agen qui reçoit maintenant, enfin, qui va jouer que contre des équipes de bas de tableau jusqu'à la fin de saison, sauf sur le dernier match où ils reçoivent Vannes. Donc je pense qu'ils vont vouloir engranger les points à fond pour faire une remontada, hein, comme on dit maintenant dans le jargon du sport. Hein. Ils sont 11e, mais ils sont tout à fait capables de se qualifier encore. Et pour Nevers, certes, il y aura 2 semaines avant le match à Rouen, mais est-ce qu'il va falloir le jouer à fond, ou est-ce qu'il va falloir penser à ce match face à Rouen? Ça veut dire ben le match un peu du maintien, hein. Ça va être le match du maintien pour les deux équipes. Ça va être le match de la peur un petit peu, même si les matchs de la peur sont plutôt dans les saisons. Mais bon, là, ça va être le match de la dernière chance.
Ouais, puis faut aussi rappeler que sur ces 7 matchs, donc il y a 2 blocs, mais c'est assez particulier parce qu'il y a un bloc de 5 matchs et un bloc de 2 matchs.
Oui.
Donc ça va être particulier aussi en termes de gestion.
Ouais, c'est ça. En fait, ils ont fait un bloc de 2 matchs à la fin, tout simplement. Alors ça, c'est pour les auditeurs et auditrices, hein, qui nous écoutent, que j'explique cela. C'est parce que souvent, avant, il y avait des matchs décalés par rapport à la neige, les terrains praticables. Enfin, c'était souvent par rapport à ça. Et donc, les matchs, au lieu de se faire en semaine, étaient plus tard dans la saison et notamment vers la fin de saison. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trous quelquefois, et notamment là, un trou là, parce que comme il reste que 2 matchs après, que c'est très, voilà, c'est serré. Après ces 2 matchs, il y a les phases finales, hein. De suite après, il n'y a pas de repos. Donc, c'est pour ça aussi. Il faut que les équipes de haut de tableau, ben, soufflent un peu, parce que après ces équipes-là, de suite après, elles jouent les barrages, les demi-finales et les finales. Donc, ils ont peut-être 3 autres matchs à faire. C'est pour ça qu'il y a ce week-end-là, 1 pour souffler pour des équipes, et 2 s'il y a un match en retard, c'est pour jouer ce match en retard. Bon, je pense pas que cette journée de début mai va servir cette année. Tant mieux pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir se reposer pour se donner à fond pour les 2 dernières journées, quoi. Christian, on a parlé de tout ce championnat. Allez, une dernière chose avant de passer aux jeunes. On va parler un peu d'une rumeur qui circule depuis quelques jours autour d'Angoulême. C'est une rumeur transfert. On sait qu'on a quand même beaucoup de blessés chez nous, qu'on a besoin de joueurs supplémentaires. Il y a quand même des joueurs qui ont été prêtés, hein, par Béziers notamment. Là, on parle d'un joueur quand même qui est un ailier, qui a été licencié par le club d'Agen il y a quelques jours de cela. C'est Georges Tisley, un ailier. Est-ce que tu penses qu'un joueur comme ça, qui a joué en top 14 aussi, hein, avec Perpignan, qui a pas mal joué avec Perpignan et qui a fait du bien à cette équipe, est-ce que tu penses qu'un joueur comme ça, en fin de saison, si bien sûr il est recruté, est-ce que ça peut être un joueur clé?
Ben effectivement, pas mal de blessés, notamment Marvin Estremo. Alors je sais pas trop où il en est en ce moment physiquement, mais effectivement, c'est à ce poste d'ailier que il y aurait un besoin. Par rapport à ce qui s'est passé à Agen, ben écoute, je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler, hein, étant 100% à Genève. Mais ouais, effectivement, il me semble d'ailleurs que dans la Charente Libre, Didier Pichot n'avait pas dit non à cette arrivée de mémoire. Donc bah pourquoi pas. Après, c'est toujours compliqué d'intégrer un groupe à 2 mois de la fin de la saison. On l'a vu l'an passé avec Ben Botica, ça avait fonctionné. Maintenant, voilà, a priori, c'est un joueur qui se serait fait licencier parce qu'il aurait agressé physiquement un encadrant du club. Après, j'imagine que tu as plus d'informations sur le sujet que moi, mais donc je te laisserai la patate chaude. Mais en tout cas, bah c'est compliqué d'intégrer un joueur 2 mois avant. On a vu l'an passé qu'avec Ben Botica, ça l'avait fait. Donc pourquoi pas, mais je j'ai pas forcément trop d'avis sur cette question, en fait.
Ben moi, alors bon, je vais en parler un peu plus, parce que oui, je suis d'Agen, comme tout le monde le sait maintenant sur cette émission. Georges Tisley, je le connais un petit peu, hein, je l'ai un petit peu côtoyé, ce joueur-là. Faut savoir que j'adorais ce joueur quand il était à Agen avant qu'il aille à Perpignan. Perpignan, il était costaud. C'est vrai que tous les supporters d'Agen voulaient qu'il finisse sa carrière à Agen. Tout le monde était content qu'il revienne. Mais il y a quand même c'est que bon, maintenant on y pense, c'est un joueur ilien. Il vient des îles et nous à Agen, on est habitué à ça, d'avoir des joueurs comme ça. Ils aiment bien faire la fête. Et ben lui, il a fait un peu la fête avant le match. Et donc il était un peu alcoolisé à ce moment-là avant le match. Et donc oui, il s'en est pris, en fait non, il a pas agressé, il s'en est pris verbalement.
Ah, verbalement, d'accord.
Verbalement au directeur du rugby de qui est Thomas Léger, Thomas que je connais bien aussi, qui s'en est pris verbalement à Thomas. Alors il a pas agressé, il a ouais. Alors maintenant c'est facile de dire agressé, mais bon, moi c'est pas ça, c'est voilà, il a tenu par la veste du costume et lui a dit les choses face à face comme ça avec 2-3 bières dans le museau. C'est pour ça que il a été d'abord mis à pied, il a fait des excuses qui ont été publiées aussi, mais ça n'a pas suffi et donc il a été licencié. Ce joueur-là, cette saison, j'avoue qu'il m'a un peu déçu. Pour moi, il m'a un peu déçu, ce joueur, parce que il n'y était pas. Il était pas dedans, il a marqué un essai, il a pas joué toute la saison parce qu'il était un peu blessé. En fait, il a perdu un peu de rythme parce que au début de saison, il était pas avec nous, il était avec le Stade Toulousain. Stade Toulousain pour remplacer des joueurs pendant la Coupe du Monde. Et, je crois qu'il a pas joué avec le Stade Toulousain où il a juste fait un match. Donc, c'était très compliqué pour lui de revenir dans le rugby parce que cet été, ben, il a pas joué pour la peine parce qu'il avait pas de club et tout ça, donc il s'entraînait tout seul. Donc c'était un peu compliqué de retrouver sa forme, mais il a pas réussi à retrouver sa forme. Mais c'est sûr que pour une équipe, même s'il est motivé à venir et à montrer à tout le monde que c'est un joueur de rugby et qu'il veut montrer sa force sur le terrain, ouais, ça peut être un plus pour le SA15. Et j'espère le voir aussi, ouais, au SA15, parce que ça peut être défensivement, c'est pas trop ça, mais niveau attaque et puissance surtout, à l'impact, il est quand même assez costaud comme joueur. Donc ouais, ça peut être intéressant de voir un joueur comme ça. Maintenant, je vais juste dire une chose, si Monsieur Pichot nous écoute, alors peut-être qu'il va baisser un peu son salaire, Monsieur Tisney, mais attention, c'est un gros salaire, hein, quand même. Hein. C'est quand même un gros salaire. C'était l'un des plus gros salaires du SUA. Donc ça peut le faire là-dessus.
Le SA15 Magattitude. SA15 Magattitude. Le résultat des jeunes.
Allez, on va terminer cette émission en parlant des jeunes maintenant, parce qu'il y a quand même eu des jeunes qui ont joué, Christian, ce week-end. Il y avait un match, j'ai pas pu le suivre malheureusement parce que j'y étais en plus à Pau. C'était à Pau, nous avons les espoirs qui jouaient là-bas et ça a été une défaite 25-6. C'est une nouvelle défaite pour le SA15 Espoir. Et puis on avait les Goderman. Il jouait face à Clermont, enfin le 15 des Volcans, exactement, ça s'appelle 48-15, donc deux nouvelles défaites pour les jeunes. C'est, comment dire à force, Christian, est-ce que tu as des mots à force pour encourager nos jeunes?
Bah écoute, on va forcément reprendre les mots des semaines précédentes en parlant de compliqué, c'est compliqué. Bon voilà, hein. Aller à Pau ou aller en Auvergne, c'est très compliqué. Ils sont allés, ils ont ramené deux défaites. Maintenant, bah, il faut pas se décourager. Et puis, bah, pour les espoirs, on espère qu'ils ne termineront pas cette saison Fanny et qu'ils iront pencher, je pense, cette victoire qu'ils méritent. Parce que quand même, malgré toutes les défaites, il faut quand même mesurer le travail qui est fait par le staff et par les joueurs. Donc voilà, j'espère que sur cette fin de saison, ils iront chercher au moins une victoire qui récompenserait leurs efforts.
Ouais, on peut dire pour les espoirs, pas de peau et faut garder espoir, quoi, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Faut garder espoir. Malheureusement, pour les Goderman, ils ont fait respecter le 15 du Volcan en marquant 15 points.
Oui, ouais, c'est bien. Non, on a des bons jeux de mots, je vois cette fois-ci là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il faut rappeler, alors j'ai pas le classement, hein, des Goderman, mais oui, il faut rappeler malheureusement que pour nos jeunes espoirs, c'est quand même 10 matchs, 10 défaites, 113 points marqués sur les 10 matchs, donc 11 points de moyenne, 430 de prise sur 10 matchs, donc 43 points de moyenne. Donc
on peut se dire finalement d'encaisser seulement 25 points du côté de Pau, c'est pas si mal que ça.
C'est pas si mal que ça, surtout que Pau est troisième, hein, au classement de cette poule. Donc voilà, quoi, c'est pas un petit réveil, on va dire, mais bon, c'est c'est pas une bonne performance non c'est plus, mais il y a voilà, il y a quand même quelque chose qui est quand même bien. Donc c'est assez sympa. Le prochain match pour eux, pour le SA15, ça sera face au Racing le 23 mars. Et les avant-derniers de cette poule, c'est Aurillac. Je regardais hein, s'il y allait avoir quand même ce match face à Aurillac. Et il y sera à la maison, à domicile. Ça sera le 18 mai. Ça sera Angoulême face à Aurillac. Ça sera peut-être le match pour gagner un match cette saison. Donc, ça serait pas mal le 18 mai à 15h, le samedi 18 mai. Allez encourager ces petits jeunes parce que ils ont vraiment besoin d'encouragement pour cette fin de saison. On termine cette émission là-dessus. Merci Christian d'être là aujourd'hui, de nous avoir aidé à participer à cette émission. On envoie aussi le bonjour à Fred et on le retrouvera la semaine prochaine. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir.
Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.